Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. Je suis ravie d'accueillir sur l'épisode numéro 9 de La tête en mer, Jérôme Bourdillon. Hydrographe de métier et explorateur dans l'âme, Jérôme compte plus de 300 plongées avec les requins. Il a parcouru le monde sur son voilier pour mener l'expédition Lords of the Ocean. Il nous raconte et nous emmène en voyage avec lui à la rencontre de ces requins. Salut Jérôme.
Salut.
Écoute, je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu es un plongeur atypique, je dirais, puisque tu t'intéresses aux requins et tout particulièrement aux espèces dites les plus dangereuses. Mais ça, c'est quelque chose dont on va rediscuter ensemble, puisque tu as passé plusieurs mois à plonger avec eux. Vous êtes parti en expédition à la voile avec deux de tes amis autour du globe. Vous avez appelé cette aventure « Lords of the Ocean », donc les rois de l'océan, qui pour toi sont donc les requins. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à t'intéresser aux requins, cette espèce qui nous intrigue tant?
Ouais, pas de problème. Depuis que je suis tout petit, en fait, mes parents ils m'ont un peu mis à la plongée rapidement quand j'avais 8 ans, quoi. Et j'ai adoré ça, quoi. Pour moi, être sous l'eau avec un détendeur, c'est être dans un autre monde. Ça te permet de te couper de plein de problèmes et de juste s'émerveiller. Et assez rapidement, je me suis intéressé énormément à la plongée, aux poissons, aux mammifères marins. Et à l'époque, il y avait des films de Cousteau où on voyait des fois des requins sous l'eau. Ça m'intéressait beaucoup, je les trouvais magnifiques. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire des livres à la bibliothèque sur les requins et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément les grands prédateurs mangeurs d'hommes qu'on décrivait dans les films, et que c'est un animal beaucoup plus complexe et intéressant. Et qu'en fait, les gens arrivaient à plonger avec des requins tous les jours, quoi. Et donc, il y avait un peu deux facettes. Il y avait l'aspect, le grand méchant des films qu'on voyait dans tous les médias. Et quand on était plongeur et qu'on s'intéressait un peu à cette espèce, il y avait un autre aspect. C'était un poisson magnifique avec lequel il était possible de plonger et qui n'allait pas nous sauter dessus à la moindre occasion. Du coup, j'ai passé mes niveaux. Je suis devenu dive master et je suis allé plonger un peu partout dans le monde quand j'ai commencé à travailler et que j'avais des vacances devant moi. Et donc, le moment tant attendu est arrivé. Quand j'avais 20 ans, j'ai réussi à plonger pour la première fois avec un requin au Kenya, à Mombasa d'ailleurs. Et c'était un requin pointe noire, quoi, un requin tout à fait classique. Et là, j'ai trouvé ce poisson magnifique. Et ça, mon cœur n'arrêtait pas de battre et j'étais amoureux, quoi. Voilà, quoi. Et quand on s'intéresse aux requins, il y a quelque chose qu'on réalise tout de suite, c'est qu'ils sont en grand, grand, grand danger. On estime c'est assez imprécis parce qu'il n'y a pas vraiment d'études très précises qui ont été faites, mais on estime qu'il y a entre 100 millions et 200 millions de requins qui sont tués chaque année. Ils sont complètement surpêchés. Et des chiffres qui sont à peu près vraisemblables, c'est que, par exemple, rien que pour donner une idée, en mer Méditerranée, en 60 ans, on estime que 90% des stocks de requins ont disparu. Donc, ce qui est énorme, quoi. Et pourquoi? Parce qu'il y a une surpêche monstrueuse et qu'ensuite, les gens, ça leur fait un peu ni chaud ni froid de voir des requins disparaître parce que dans les films, c'est le grand méchant. Donc, on s'en fout un peu que le grand méchant disparaisse de la planète. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est pas le grand méchant. Il est extrêmement important pour les écosystèmes marins. Il est au sommet de notre chaîne alimentaire et que si on commence à enlever les requins de la chaîne alimentaire, tout le système s'écroule et il y a des dysfonctionnements énormes. Et du coup, il faut le protéger et il faut se battre pour changer son image et faire comprendre aux gens qu'un requin ne va pas vous sauter dessus à la moindre occasion. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis parti à la voile avec trois de mes potes d'ailleurs. On était quatre en tout sur le bateau.
D'accord.
Et on a fait un périple à la voile de 7 mois autour du monde pour plonger avec les requins, soi-disant les plus dangereux au monde, entre guillemets, pour prouver que ils ne le sont pas tant que ça, que quand on respecte certaines règles, c'est tout à fait possible d'envisager de plonger avec des requins. Et c'était pour après médiatiser un peu notre parcours et en fait faire exactement ce que tu fais, tu vois, répondre à des questions, que les gens nous écoutent et nous entendent parler de requins et se disent « Ah tiens, ce mec il vient de dire que c'est possible de nager avec des requins, je vais me renseigner un peu ». Et en 3 clics sur Internet, on se rend compte qu'en fait, les dents de la mer, c'est, complètement une fiction et que la réalité est tout autre.
C'est
Voilà, c'est
clair.
ça le but.
Génial. Et alors peut-être juste pour qu'on comprenne, tu vois, nous, je pense qu'en tant qu'Européens, ça nous paraît un peu fou de s'imaginer qu'on pêche des requins. Je sais que, voilà, moi, avant de plonger, ce n'était pas forcément un sujet dont j'étais au courant. On entend beaucoup parler de shark finning. Donc, en fait, c'est une pêche qui correspond au fait de pêcher les ailerons de requins. Et ça, c'est un plat très typique et très traditionnel en Chine. Donc, les gens mangent une soupe aux ailerons de requins. Est-ce que c'est cette pêche-là qui a du coup engrangé l'extinction? Alors, les chiffres que tu as présentés en Méditerranée sont quand même assez forts. Donc, je ne sais pas l'extinction, mais on y est presque, des requins en Méditerranée, ou est-ce qu'il y a d'autres types de pêche? Je pense notamment aux cosmétiques, peut-être.
Alors, c'est une bonne question. Donc, il y a en effet une chose, c'est que le marché asiatique, il est très, très demandeur des longs de requins. C'est d'ailleurs, comme tu viens de le dire, une pêche assez horrible. C'est on pêche un requin, on lui coupe l'aileron et on rejette son corps qui n'a pas une grande valeur marchande dans l'océan. Et le requin va aller agoniser sur le fond. Donc, cette pêche, elle est responsable de la mort de beaucoup, beaucoup de requins dans le monde, mais plus dans les pays un peu éloignés par rapport à l'Europe. Donc, ça va être dans les Caraïbes, dans le Pacifique, parce que la flotte chinoise est gigantesque. Donc, c'est des bateaux qui vont aller pêcher un peu partout dans le monde. Beaucoup, d'ailleurs, le font en trichant, ne respectant pas du tout les règles établies, les quotas, en coupant leur AIS. Donc, c'est un petit émetteur qui dit où sont les bateaux de pêche. Il le coupe, donc plus personne ne peut savoir où ils sont en train de pêcher. Et il tue des millions de requins sans que personne soit au courant. Donc, ça, c'est une première pêche qui est gravissime. Mais comme tu le dis, il y a aussi une autre forme de pêche, c'est la pêche accidentelle, en fait. C'est que nos techniques de pêche de nos jours, elles sont très mauvaises. Ça peut être des grands filets tirés partout dans l'océan, ça peut être des palangres avec des milliers d'hameçons. Et ça, en fait, on cible des poissons comme le thon, les espadons ou les doracoryphènes. Il y a des pêches accidentelles, donc on va ramener des requins. Et ça n'intéresse pas du tout les pêcheurs. Donc, le requin qui a agonisé pendant des heures à la ligne, il revient. Des fois, il est mort, des fois, il lui reste 3% d'énergie. Il est rejeté à l'océan. Voilà, on a un requin qui va mourir, qui n'avait jamais été ciblé. Et ça, c'est une pêche accidentelle de la surpêche. Et ça, les Européens, on est très forts pour faire ça.
D'accord, ouais. J'avais entendu parler aussi, ouais, des dauphins que l'on pêche beaucoup
Ouais,
accidentellement au large de l'Atlantique.
exactement. Regarde le large de Gascogne, on estime à 10 000, 10 000 dauphins tués chaque année en ce moment. Là aussi, encore, c'est notre façon de. On n'est pas très regardant en tant que consommateur sur d'où vient notre surimi, nos sardines, nos filets de lieu jaune et de bar. Et il y a une pêche qui est très destructrice et qui engendre beaucoup, beaucoup de prises accidentelles. Donc les dauphins, mais les requins, parce qu'il y a des requins de l'océan Atlantique et en Méditerranée encore, il en reste un peu. Mais sauf que on les décime à coups de grands filets. Et il faut arrêter ça. De nos jours, les gens essaient de se battre un peu, d'essayer d'alerter nos gouvernements, mais il n'y a encore rien qui est fait. Il y a des espèces de requins comme le pot bleu qui sont en voie de critique d'extinction. Il est toujours possible de le commercialiser. C'est ça qui est une vraie aberration. C'est une espèce qui est maintenant devenue rarissime en Méditerranée. Et il n'est pas interdit de le pêcher, il n'est pas interdit de le vendre. Donc c'est aux consommateurs et aux pêcheurs de devenir responsables et de faire en sorte que ça cesse.
Exactement. Est-ce que tu penses que du coup, donc il y a une action peut-être politique qui est nécessaire aussi sur ça? J'ai vu que les États-Unis, pardon, j'ai vu que
Royaume-Uni.
les Royaumes-Unis venaient
Ouais.
de passer une loi comme quoi la commercialisation en fait d'ailerons de requins, ou même j'imagine de tout, enfin, peu importe la partie du requin, mais est interdite sur le sol du Royaume-Uni. Est-ce que tu penses que du coup il y a une action politique qui est nécessaire? Ou bien ça peut être régulé, mais comme tu l'as justement dit, par les consommateurs, savoir d'où vient le poisson qu'on achète, et aussi par les pêcheurs qui doivent essayer de faire peut-être plus attention à leur pêche.
C'est un peu les trois en fait. C'est que tant que les consommateurs ils dépenseront des millions d'euros dans du poisson mal pêché, ça va être compliqué d'arrêter ça parce que le gouvernement, en fait, ce qui l'intéresse, c'est l'économie, c'est de l'emploi. Les pêcheurs, c'est ce qu'ils ont à la fin comme salaire pour manger. Donc, c'est un peu la responsabilité des trois personnes. C'est le consommateur qui doit faire très, très attention à ce qu'il consomme et comment ça a été pêché. Et de nos jours, pour tout dire, il n'y a plus grand-chose qu'on peut consommer sans avoir un peu de remords, quoi. Quand je veux dire de produits issus de la mer. Ensuite, c'est au pêcheur d'être responsable sur sa façon de pêcher et bah, d'utiliser des moyens peut-être moins efficaces, mais plus sélectifs. Et c'est au gouvernement de faire son taf de pression et de régulation et d'établir des lois qui font que la mer est mieux préservée. Et pour l'instant, bah, pour tout dire, il n'y a pas grand monde qui œuvre dans le bon chemin, quoi.
J'aimerais revenir sur justement là où toi tu es expert, donc la plongée avec les requins. Je pense que voilà, même si on est plongeur, on n'a pas tous eu la chance. Pour moi, j'assimile ça à une chance de plonger avec des requins. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu qu'est-ce qu'on ressent quand on est entouré de requins et quelle a été, toi, peut-être la rencontre ou les rencontres les plus marquantes avec cet animal?
Oui, bien sûr. Bah, après, je pense que déjà, ça dépend déjà si est-ce que tu as des a priori ou pas avant d'aller dans l'eau avec un requin. Disons qu'il y a des personnes qui ont encore jamais nagé avec des requins, mais qui attendent ça avec impatience. Bah, ces personnes, elles vont avoir les yeux voilà, écartés, elles vont vivre un moment magnifique. Et c'est voilà, c'est ce qu'elles attendent depuis longtemps et c'est le rêve de leur vie. Moi, j'ai fait plonger des amis à moi qui avaient peur des requins. Donc, j'ai passé des heures à aller en surface et les rassurer avant d'aller à l'eau. Donc, ils avaient une grosse, grosse appréhension avant d'aller dans l'eau. Et en fait, ils m'ont tous dit que c'était hallucinant à quel point, en fait, à la première seconde où ils voyaient un requin, bah, toute leur peur, s'évanouissait, quoi. C'était hallucinant de voir, en fait, ce contraste entre ce que les films montrent, un requin à la grande gueule ouverte qui arrive à toute vitesse, et la réalité. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est un poisson magnifique qui arrive tout doucement. La plupart des rencontres avec le requin se passent vraiment, le requin, bah, doucement, doucement, gueule fermée. Et il est la plupart du temps très craintif. C'est pas, faut pas croire que c'est un poisson qui va vous foncer dessus ou qui va aller au contact comme ça facilement. C'est justement le moindre faux mouvement de votre part et hop, le requin, il est parti. D'ailleurs, c'est ça qui impressionne souvent les plongeurs qui essaient de plonger avec des requins pour la première fois. C'est que c'est pas du tout un poisson qui est si facile que ça à approcher. D'ailleurs, les conseils, c'est souvent de ne pas bouger, ne pas essayer de le regarder directement, d'être le plus calme possible. Parce que si vous allez vers lui et de façon agitée, vous avez de grandes chances de faire peur au requin. Le requin, la plupart du temps, a peur des plongeurs. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la plongée requin, ça s'étudie, ça se prépare, et il y a quelques règles à respecter. Tout dépend, c'est si vous cherchez à plonger avec ce qu'on appelle le Big Five, donc les cinq grands requins réputés les plus dangereux, ou avec les requins beaucoup plus classiques. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours respecter ces règles. C'est rester calme, donc toujours être calme, ne jamais faire de faux mouvements. Pas forcément parce que vous allez attirer le requin et vous faire mordre, mais c'est tout simplement parce que vous allez au moins créer une atmosphère sereine et le requin va pouvoir vous approcher et vous regarder de façon plus calme. Il y a aussi une règle assez basique, c'est d'éviter de porter des objets brillants comme des chaînes ou des montres qui peuvent un peu voilà, faire des reflets qui pourraient imiter un peu des blessures de poisson. Ne pas porter des couleurs trop contrastées, notamment le jaune vif sur du noir, parce que là encore, ça peut faire penser à des blessures de poisson. C'est bien d'essayer d'avoir un contact visuel avec le requin, donc toujours voir où il est, et toujours le surveiller. Et après, voilà, pas s'amuser à avoir des poissons morts dans les mains ou avec soi, à part si on assistait à des plongées feeding. Mais généralement, quand on débute de la plongée requin, voilà, il faut se contenter d'observer et de privilégier des interactions naturelles. Et après, un classique des classiques, les gens ont tendance un peu à l'oublier, c'est on ne touche pas un requin, ça ne sert à rien. Pas parce qu'il ne va pas vous mordre s'il touche un requin, d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qui va se passer, ça va le faire fuir. Mais voilà, ça ne s'amuse pas à toucher un requin, même s'il arrive très près, il n'y a aucun intérêt. Et qu'une situation, on peut se permettre, c'est avec des grands requins très inquisiteurs, comme le requin tigre ou les requins longimane ou les requins peau bleue, qui vont des fois au contact, mais ils vont pas vous mordre, ils viennent vraiment avec leur museau, qui est un peu leur moyen de détecter ce qui se passe. Si le requin arrive vraiment très, très, très près, donc là, je parle de même pas 4-5 cm, certains plongeurs le font, c'est rediriger le requin, donc c'est avec sa main, c'est appuyer sur le nez du requin et le pousser dans une direction. Et d'ailleurs, le requin va suivre votre main, il va s'écarter du chemin, mais c'est voilà, c'est... Pour moi, je dois être à quoi? 300 plongées avec des requins. J'ai dû le faire deux fois dans ma vie. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour s'amuser, quoi.
Ce que je comprends, c'est qu'une plongée avec des requins, ça se prépare. Et ça se prépare. Et voilà, il y a ces comportements que tu as décrits, et je t'en remercie, qui doivent être appliqués sous l'eau. Et si tu fais ça, tu peux du coup plonger 300 fois avec des requins sans qu'il y ait de problème.
C'est ça, ouais, exactement.
Est-ce qu'il y a des lieux en particulier où tu as plongé, où tu recommandes aux plongeurs d'aller pour justement vivre ces plongées encadrées avec des requins?
Alors, ouais, après, ça va dépendre énormément du budget parce que, en fait, bah, les meilleurs endroits du monde pour plonger avec des requins, ça coûte cher. La Mecque de la Mecque, donc l'endroit le plus qui m'a vraiment mis une claque, moi, c'est Tiger Beach aux Bahamas. Donc, c'est un spot un peu isolé. Donc, on est un peu au large des Bahamas. Il n'y a pas beaucoup de fond, il y a entre 7 et 10 mètres. Il y a une visibilité incroyable, généralement entre ouais, une vingtaine de mètres, voire plus. Et c'est bah, rempli, mais rempli de requins, avec des fois, il peut y avoir plus de 7, 8, 9, 10 espèces différentes. Et c'est pas rare d'être entouré d'une trentaine de requins. Donc, ça peut être des grands tigres de 4 mètres, voire plus, des grands marteaux qui font aussi 4 mètres, des requins bulldogs, des requins citrons, des requins des Caraïbes, des requins nourrices. On peut vite être vraiment voilà, encerclé de requins. Je pense que ce genre de plongée, tous ceux qui sont passionnés de requins diront que c'est voilà, c'est vraiment le top du top. Après, c'est peut-être réservé à des gens qui sont déjà un peu habitués à la plongée requin, qui sont très sereins sur l'eau, qui ont un peu d'expérience. Après, il y a plein d'endroits dans le monde plus accessibles où on est sûr de voir des requins et qui coûtent un peu moins cher. Je pense à l'Égypte. Après, voilà, si vous avez de l'argent, il y a des endroits formidables comme les îles du Pacifique. Comme les Galapagos, Malpelo, Soroco, les Fidji, voilà, ce sont des endroits. Voilà, là, j'ai cité un peu le top du top en plongée requin. Et à Playa del Carmen aussi au Mexique. Ouais, si vous avez un petit budget et que ce que vous voulez voir, c'est une première plongée pour un peu vous stimuler vos émotions et que ça vous intéresserait de plonger avec des requins bulldogs, il y a le spot de Playa del Carmen au Mexique. Généralement, il y a des billets pas chers pour faire France-Mexique et là-bas pour quelques de ouais, $50, on peut faire des plongées avec des requins bulldogs. Donc je dirais que c'est voilà, c'est des plongées accessibles. Et après vous serez surpris de savoir qu'il y a des requins aussi en France. Donc nous on vient de passer 3 mois à chercher des requins en France et on a trouvé des endroits où il était possible de voir des requins en France. Donc même en France on peut plonger avec des requins, mais c'est beaucoup moins facile parce qu'il y en a bah, plus beaucoup.
C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc, tu m'expliquais en fait donc, ton métier est d'être hydrographe, un métier que tu m'as expliqué. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Parce que je ne pense pas que ce soit un métier que tout le monde connaît.
Alors ouais, c'est un peu une niche. Donc moi j'ai fait une école d'ingénieur qui était très portée sur la mer et donc je suis devenu ingénieur hydrographe. Donc c'est que clairement c'est les gens qui sont sur des bateaux avec des sondeurs, des robots et qui font la carte 3D du fond marin ou qui recherchent des épaves ou qui cherchent des bombes qui auraient pu être laissées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui travaillent un peu partout dans le monde. Généralement, ça peut être bah, voilà, des compagnies qui vont installer des éoliennes et donc qui ont besoin de savoir comment est le fond en dessous. Ça peut être des compagnies qui installent des ponts, ça peut être des compagnies qui veulent aménager un port, donc ils doivent savoir à quoi ressemble le port sous l'eau. Ça peut être des compagnies qui ont perdu un bateau, qui cherchent le bateau sous l'eau. Donc c'est un métier un peu atypique et on est amené à voilà, toujours travailler sur l'eau dans plein de pays différents. Donc j'ai fait ce métier pendant 10 ans, j'ai travaillé dans une trentaine de pays différents. Et j'avais pas forcément beaucoup de temps pour moi, ma famille, voilà, avoir une vie un peu normale. Donc c'est ce qui m'a amené à me retrouver au bout de 7 ans de ce métier célibataire, avec beaucoup d'argent et prêt à tout sacrifier pour faire un tour du monde, pour aller à la rencontre des requins et essayer d'œuvrer pour leur préservation.
Génial. Donc c'est de là qu'est né le projet Lords of the Ocean. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi a consisté cette expédition et nous faire voyager avec toi sur ce voilier?
Oui, bien sûr, pas de problème. Bah, en fait, du coup, j'avais acheté un voilier et j'avais un peu la bougeotte, quoi. Et j'ai appelé mon meilleur ami, Benji, à l'époque, qui est toujours mon meilleur ami d'ailleurs. Et je lui ai dit, parce que je savais qu'il faisait plus ou moins le même métier que moi et que lui aussi, il était célibataire et que lui aussi, il avait du temps devant lui et des économies. Et on s'est dit, bon, bah, vas-y, on prend mon voilier. Et on va faire le tour du monde à la recherche des requins les plus dangereux pour plonger avec et montrer qu'ils ne le sont pas tant que ça. Donc l'idée est à germer comme ça sur Facebook. Je me rappelle un matin où on parlait, ah, comment ça va, poto et tout. Et bah, le lendemain, en fait, c'était pas une blague. On s'est vraiment mis à chercher, à programmer, à budgétiser tout ça. Et on a mis un an et demi à mettre bah, tout ça en place. Et un an et demi après, on levait l'ancre de Brest et on est parti sur un voilier avec deux autres amis qu'on avait trouvés sur Internet. Donc Cyrielle, qui était une monitrice de plongée spécialisée en plongée requin bulldog, et Armel, qui était un caméraman spécialisé dans les films animaliers et sous-marins, qu'on avait rencontré comme ça sur Internet aussi. Bon, on leur avait speeché le projet, ils avaient dit ouais, on signe où, on est chaud. Et on est parti à quatre comme ça pendant 8 mois à la voile, parce que bref, on ne voulait pas faire ça en avion. De nos jours, c'est quand même bien d'éviter d'avoir une empreinte carbone trop importante. Et du coup, on a fait 7 mois autour du monde à la voile pour aller dans les endroits qu'on avait étudiés. Hein. Tout avait été planifié, les saisons, tout ça, les spots. Et on était en autonomie totale sur un voilier avec des éoliennes, des panneaux solaires, un compresseur de plongée, tout le matériel qu'il faut. Et on pouvait, voilà, une petite aventure des temps modernes à quatre, se balader avec notre voilier et plonger avec des requins et les filmer. Et à la fin,
Incroyable.
on a créé une web série qui décrit tout ça et qui nous montre, voilà, plonger pour les quatre coins du monde avec des requins. Et cette fois-ci, il n'y a pas des grandes musiques stressantes avec des requins qui arrivent la gueule ouverte, mais plutôt l'inverse, des musiques cool avec des requins qui passent à côté de nous tout doucement pour dénoter un peu avec ce qui a trop été fait depuis un siècle.
Trop bien. Et cette série, on peut la retrouver sur YouTube?
Ouais, bien sûr, ouais. Il faut juste taper Lords of the Ocean, donc bah, les seigneurs de l'océan en anglais. Alors, je précise que c'est. On n'est pas mégalomanes, hein, c'est pas nous les seigneurs de l'océan, bien sûr, c'est les requins. Et du coup, allez sur YouTube, la saison 1, et il y a même un site internet, un Facebook. Et là, on vient de finir notre saison 2, donc qu'on vient de tourner pendant tout l'été en France. Et donc, c'était la recherche des requins français. C'était beaucoup moins facile. L'eau était beaucoup plus froide, la visite était moins impressionnante, mais on a réussi à filmer. 5-6 espèces de requins qu'on allait chercher, dénicher, des fois des semaines et des semaines dans l'eau à rien voir pour avoir ce moment magique de 3 minutes où enfin on arrive à trouver un requin sur les côtes françaises.
Et sur ces plongées-là, vous êtes à la recherche de requins. Est-ce que vous êtes à donc là, que ce soit en France ou sur tous les voyages que vous avez faits, est-ce que vous êtes à chaque fois accompagné de personnes locales?
Alors, pendant notre tour du monde à la voile qui a duré 8 mois, beaucoup de plongées, non. Beaucoup de plongées, c'est en fait, on savait, on avait fait nos recherches, on savait les spots, et après, en parlant un peu avec les locaux, on arrivait à avoir des meilleures précisions. Quelques-unes, oui, bien sûr. Quand on arrivait au Mexique, le spot de Playa del Carmen avec le requin bulldog, c'est un peu chasse gardée par les commerçants de la zone. Donc, grâce à Cyrielle, on avait des contacts, donc on a fait des plongées avec des gens qui nous ont accueillis à bras ouverts et qui nous ont fait plonger là-bas. Après, le reste du voyage, non, on faisait tout nous-mêmes. En démerdant, comme on dit, à essayer de trouver les spots, à plonger, à prendre des notes, à dire ah bah ça marche pas comme ça, il faut peut-être mieux tenter comme ça. Et après, par contre, en Colombie, quand on a été à Malpelo, donc qui est une réserve très très bien protégée par Sandra Bessudo, qui est une franco-colombienne qui était ministre de l'Environnement en Colombie et qui protège cette île qui est au large de la Colombie et qui est remplie de requins avec une biodiversité incroyable. Bah là, pour donner une idée, normalement, tu n'as pas le droit d'avoir plus de 10 plongeurs par jour, tellement le site est bien protégé. Donc, on a dû batailler pendant un an pour avoir les autorisations. Et Sandra nous a accueillis et nous a incrustés à une campagne scientifique pendant une semaine là-bas. Et donc, on a fait des choses incroyables. On a même aidé les scientifiques à marquer des requins au harpon. Donc, en fait, Benji, moi, Armel et Cyrielle, tous les matins, après le petit déjeuner, de 7 à 10 heures, on était en apnée avec des harpons qu'on avait modifiés avec des flèches un peu particulières. Pour tirer délicatement sur les requins juste au-dessous de la dorsale pour prendre des petits bouts de peau et permettre aux scientifiques de mieux les étudier, les comprendre et arriver comme ça à mieux les protéger. Donc c'était assez intéressant.
Ouais, ça paraît fou. Ça paraît fou que t'ailles faire ça et du coup aller t'approcher des requins pour faire ça. Et le requin ne réagissait pas ou pour lui c'était
Alors, ouais,
j'imagine
on nous avait pas mal coaché avant. Donc, sur le site, il y avait quatre espèces de requins qui intéressaient les scientifiques. Il y avait le requin marteau, le requin des Galapagos, le requin soyeux et le requin baleine. Grosso modo, un requin baleine de 10 mètres, quand tu lui tires dessus avec un harpon, ça lui fait rien, quoi. C'est comme une petite piqûre pour nous. Tu lui as pris un petit bout de peau. Voilà, je précise, hein, si on prend des prélèvements, généralement, on arrive à avoir un demi-centimètre de peau, quoi. C'est ce qui intéresse les scientifiques. Les requins marteaux, c'est des requins très farouches, très timides. Donc, une fois que tu leur as tiré dessus, ils étalent à toute vitesse sans demander à leur reste. Et les deux autres, les requins des Galapagos, c'est des requins soyeux. C'est des requins qui peuvent faire 2-3 mètres, qui sont beaucoup plus, on va dire, qui se laissent pas trop faire, quoi, qui sont un peu plus les prédateurs dominants de l'île. Et du coup, quand tu leur tires dessus, par réaction assez rapidement, ils s'écartent, quoi, ils partent. Mais très rapidement, ils vont revenir et ils vont te. Si tu tombes sur un gros spécimen qui n'est pas très content, bah, il va te tourner autour. Et là, c'est quand même bien de remonter sur le bateau et attendre 5 minutes qu'il s'en aille pour revenir à l'eau, quoi. Donc, oui, moi, j'ai tiré sur un requin Galapagos de 3 mètres qui est revenu assez rapidement et qui m'a tourné autour de manière un peu. Voilà. Après, avec l'habitude, on sait très bien quand un requin est là pour un peu. Voilà, parce qu'il n'est pas content ou parce qu'il est juste là pour t'observer. Là, clairement, c'était une nage un peu. Rapide autour de moi, j'ai compris que c'était mieux pour moi de sortir de l'eau quelques minutes avant d'essayer d'aller remarquer d'autres, quoi.
Et je voyais sur votre site que vous avez été aussi missionné par des scientifiques ou par des assos quand vous avez navigué sur votre voilier pour prélever du plancton ou différentes choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et je te pose aussi cette question parce que ça me questionnait sur le fait que bon, ça, il y a beaucoup de gens qui partent faire des transats, beaucoup de gens finalement qui voyagent sur l'eau en voilier. Est-ce que c'est facile en fait de prendre part à ce genre de mission? Est-ce que les scientifiques ont même un besoin pour ça? Et comment ça fonctionne?
Alors ouais, donc ça, je vais faire de la pub pour des copains qui nous ont drivé pour ça. Ça s'appelle une association qui s'appelle Astrolab. Donc en fait, elle encourage les plaisanciers qui ont des voiliers à aider les scientifiques. Et en fait, on se rend pas compte, mais pour la science, ça coûte cher d'envoyer des gens sur l'eau, prélever des planctons. C'est beaucoup d'argent. Et en fait, si les plaisanciers le font de manière voilà volontaire, bien sûr que ça aide les scientifiques. C'est beaucoup beaucoup d'économies. Donc, par contre, il faut le faire de manière un peu sérieuse. Il y a un protocole à suivre. Il faut vraiment respecter ce que les scientifiques ont en tête parce qu'ils ne sont pas avec vous sur le bateau pour vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi. Mais ça intéresse beaucoup, notamment les scientifiques à Concarneau qui étudient le plancton. Et du coup, quand les conditions sont bonnes, oui, c'est un petit filet comme ça qui fait 1 mètre qu'on déploie derrière le bateau pendant 15 minutes. Il ne faut pas aller trop vite avec son voilier parce que sinon, le protocole n'est pas respecté. Et on fait des prélèvements de plancton comme ça. Après, on conserve dans des fioles avec du formol et que quand on a le temps, plus tard, on envoie aux scientifiques. Et ils sont très contents de nous avoir parce que pour eux, nous fournir un kit et quelques éprouvettes, un filet et du formol, c'est quoi, une cinquantaine d'euros. Et derrière, ils ont des prélèvements comme ça partout dans le monde. Donc, c'est assez intéressant.
C'est
Il y a
top.
aussi l'observation des cétacés. Donc, il y a un site qui s'appelle Obs-en-mer où, en fait, tous les plaisanciers qui ont la chance de voir des cétacés et qui ont des moyens à bord, il faut qu'ils notent la position GPS, l'espèce s'ils arrivent à l'identifier, des photos s'ils arrivent à le faire. Et ensuite, ils peuvent aller sur Internet, remplir la base de données. Et à terme, en fait, ça permet aux scientifiques d'étudier la présence des cétacés, leur route de migration et voilà, d'agrandir la base de données et de plus tard proposer des routes de préservation, quoi. Quand on se rend compte qu'il y a un endroit dans le monde où 80% des cétacés commencent à croiser. C'est peut-être intéressant de réfléchir à comment mettre en place des règles qui permettent d'éviter des accidents dans cette zone-là, par exemple. Donc, c'est très intéressant d'alimenter les bases de données pour les scientifiques sur la présence et les routes des cétacés.
Ouais, c'est génial ouais, de faire bénéficier de ton voyage aux scientifiques, quoi. Et puis tu as de l'impact en plus de ça, donc je pense que c'est satisfaisant. Est-ce que tu penses que ce genre de mission pourrait être aussi réalisée par des plongeurs sans forcément être expérimenté?
Alors, il y a quelque chose qui intéresse pas mal la science en ce moment, c'est le corail mésophotique. En fait, le corail mésophotique, c'est le corail qui pousse en profondeur. Donc, ça commence à partir de 30 mètres. Donc, le problème, c'est que voilà, ce qui les intéresse, c'est d'arriver à photographier le corail mésophotique, à faire des cartes de densité. Donc, ça implique des plongeurs qui sont capables d'aller à plus de 30 mètres et qui prennent des photos avec des schémas, des patterns pour voilà, de. Voilà, quelle est la densité de corail pour 1 mètre carré? Donc, il faut être un peu formé, il faut avoir du matériel. Donc, c'est très porteur, voilà, l'étude du corail mésophotique. Mais ça demande voilà, d'être un plongeur un peu aguerri. Et ça, je sais que les scientifiques sont très demandeurs de données sur le corail mésophotique dans le monde. Après, en tant que plongeur, on peut toujours aider les scientifiques. Bah, parce qu'on est toujours les témoins, les yeux de la science sous l'eau, et donc il y a toujours les observations qui peuvent intéresser les scientifiques, mais après, je ne suis pas au courant de toutes les parties voilà,
C'est
je veux
vrai.
dire,
Mais
il y a tellement de domaines que c'est complexe.
ça m'interroge et ça m'intrigue. Tu vois, je me dis, ben, voilà, quand je vais plonger, je sers à rien, à part mon propre plaisir, voir des choses. Après, ben, moi, la plongée m'a sensibilisé quand même au monde marin et à ce qui se passe sous l'eau. Parfois, je ramasse du plastique sous l'eau. Donc, mes plongées n'ont pas servi à rien pour me sensibiliser, moi, à titre perso. Mais c'est vrai que voilà, je me dis si sur chaque plongée, je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice sur les recherches scientifiques ou des choses comme ça, ce serait hyper chouette. Donc, je vais creuser le sujet.
Et d'ailleurs, dans le genre, bah, si tu veux être utile pour la biodiversité et que tu plonges et que tu es amené à plonger dans les Caraïbes, c'est un peu déroutant, les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, quand on plonge dans la zone Caraïbes, Bahamas, tout ça, et qu'on croise des poissons lions, donc tu sais, c'est le poisson rouge vif là, avec des petites épines blanches, en fait, il n'a rien à faire dans cette zone-là. C'est un poisson qui a été déversé par les aquariums qui proviennent de l'océan Indien. Et en fait, il n'a pas de prédateurs et il commence à agresser bah, tous les petits juvéniles d'espèces de poissons qui, normalement, ne sont pas censés être mangés par ce poisson-lion. Et donc, en fait, c'est déroutant, mais on encourage les gens, les chasseurs sous-marins, les plongeurs, à tuer tous les poissons-lions qu'ils arrivent à croiser ou à voir dans cette zone du monde, donc la zone Caraïbe. Voilà, toi, le poisson-lion n'est pas du tout une espèce qui est censée être là. C'est une espèce invasive. Et du coup, on encourage les plongeurs à tuer le poisson-lion quand ils le croisent.
Et tu sais, j'ai été plongée en Corse cet été et j'ai entendu dire qu'on a vu des poissons-lions également en Méditerranée, au large de la Corse. Et là, apparemment, c'est pareil, ils ne sont pas du tout censés être là. Donc, je sentais un peu l'inquiétude des plongeurs sur place de se dire, mince, ce qui va se passer, ce qui se passe aux Caraïbes actuellement? Et est-ce qu'on va être bah, envahis? On va devoir, nous aussi, tuer ces poissons.
Ouais, bah, voilà, bah, je pense que c'est un peu déroutant de se dire ça, mais oui, en fait, c'est des espèces. C'est quand même, après, il y a plein d'espèces qui ont fait ça aussi, les écrevisses américaines qui ont mangé les écrevisses européennes après sur nos, dans nos, dans nos rivières. C'est voilà, c'est déroutant en tant qu'amoureux de la faune et de la flore de se dire, il faut absolument que je tue cette espèce. Mais en fait, c'est juste que ça peut créer des dérèglements tellement importants que bah, il faut le faire, en fait.
Et tu me disais, du coup, donc votre saison 1 était ce voyage sur le voilier Lords of the Ocean autour du monde. Et la saison 2 est du coup une recherche des requins en France. Tu m'expliquais également que le monde des associatifs de protection des requins en France était un petit monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, toutes les. Alors, peut-être pas toutes, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, ce monde que tu as décrit comme petit?
Alors, ouais, donc, en fait, ce que je disais, c'est que, grosso modo, quand on commence à œuvrer pour les requins, bah, il y a une communauté qui est pas très nombreuse, mais tout le monde aime bien s'aider, tout le monde se connaît. Et nous, qu'on a commencé à faire notre saison sur Lord of the Ocean, assez rapidement, on a été en contact avec bah, les gens qui œuvrent pour les requins en France. Et finalement, bah, ils sont pas si nombreux que ça, quoi. Donc, bah, je pourrais t'en citer quatre assos qui œuvrent pour les requins. Donc, c'est l'association Aileron, qui est dans le sud de la France, qui bah, elle bah, essaye de voilà de c'est ça fait de la, c'est un, ça, toujours un peu la même chose, c'est l'étude des requins, c'est la communication sur essayer de parler avec les pêcheurs pour essayer qu'ils arrêtent de pêcher des requins ou qu'ils relâchent au moins les prises accidentelles. Donc voilà, c'est bah, le président, c'est Matt Lapinski, c'est un pote qui est super sympa. Et donc l'association Aileron dans le sud de la France. Après, en Bretagne, où il y a l'association Apex. L'APEX qui s'occupe aussi, là aussi, bah, toujours la même chose, hein, d'étudier et d'essayer de protéger les requins et les raies de Bretagne. Il y a l'association des requins et des hommes, donc aussi en Bretagne, qui s'occupe aussi de l'étude des requins. Et après, il y a une association un peu plus globale, c'est Shark Mission France. Donc, c'est une association qui est basée à Paris, il me semble. Mais eux, c'est vraiment voilà, prévenir les consommateurs qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, essayer de communiquer et d'éduquer un peu la masse sur. Bah, comme tu en as parlé au début, les requins dans les cosmétiques ou les requins dans nos assiettes, comment éviter d'être en tête de prendre part de manière intelligente à ce massacre des requins et en tant que consommateur d'être responsable.
Eh bien, écoute, Jérôme, je te remercie beaucoup pour ce focus qu'on a pu faire grâce à toi sur les requins.
Pas de problème.
Personnellement, ça me donne très envie d'aller plonger avec les requins et bah, comme tu l'as souligné, de manière encadrée, on va dire, pour justement voilà, mettre enfin, que tous les gestes soient respectés pour que la plongée se passe bien et pour nous et pour les requins, puisqu'on va quand même sur leur habitat, donc c'est à nous de les respecter en premier. Et puis, ben, merci d'avoir aussi partagé avec nous ton aventure Lords of the Ocean que je vais m'empresser d'aller voir. Ça va me faire voyager un peu. Et puis, je te souhaite bonne continuation pour tes futurs projets. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est dans le pipe et que tu peux partager avec nous?
Les futurs projets, bah, c'est un peu top secret, mais disons que au cours de notre investigation sur les requins français, on a découvert une zone en Écosse où bah, il y aurait des rassemblements de centaines de requins, et donc on réfléchit à peut-être faire une saison 3 portée juste sur l'étude de cette zone-là, quoi. Donc je peux pas trop dire où c'est, je peux pas trop dire quelle espèce parce que c'est voilà, c'est un peu chasse gardée, mais on est en train d'essayer de réfléchir à une expédition pour aller bah, s'intéresser à ce rassemblement de requins mystérieux.
Génial. Bah écoute, on te souhaite une bonne chance avec ce projet. On suivra tout ça.
Pas de problème. Ah, merci beaucoup à toi aussi, Audrey, parce que bah, c'est important et c'est bien que des gens comme toi médiatisent ou s'intéressent aux requins, parce que plus on parle des requins, mieux c'est.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La tête en mer. À bientôt!